Guillaume Gomez, bonjour.
Bonjour.
Cela fait un peu plus d'un an que vous avez quitté les fourneaux de l'Élysée après y avoir été le chef cuisinier pendant près d'un quart de siècle. Vous avez servi 4 présidents, vous êtes désormais ambassadeur pour la gastronomie. En quoi consistent ces nouvelles fonctions ?
C'est un rôle d'ambassadeur thématique pour valoriser la gastronomie française. Un rôle de rayonnement, bien sûr, et d'attractivité. Donc très rapidement, c'est valoriser toutes celles et ceux qui font notre gastronomie, des producteurs, des semenciers, des agriculteurs, jusqu'à la méthanisation des déchets. Donc l'ensemble de la filière gastronomie, aussi large soit-elle, et bien sûr une valorisation de tous nos territoires, dom-tom compris.
Vous êtes toujours par Mons et par Vaud, parce que là, on a eu du mal à trouver une date pour cet entretien.
Oui, j'essaye de laisser l'exclusivité de mon temps une fois de plus. J'ai été au service, vous l'avez dit, pendant 25 ans de 4 présidents, un privilège immense. Je suis aujourd'hui au service des acteurs du territoire qui font notre gastronomie, quels qu'ils soient, apprentis, jeunes, agriculteurs, producteurs, pêcheurs, chasseurs, transformateurs, artisans. Donc ça prend en effet beaucoup de temps. Et j'ai aussi un rôle avec nos représentations à l'international, nos ambassadeurs, nos consulats, nos Institut français pour valoriser cette culture française et à travers notre gastronomie, bien sûr, transmettre les valeurs qui sont les valeurs de la France.
Vous publiez un livre de recettes de cuisine qui ne ressemble à aucun autre. Il s'intitule « Recettes gourmandes des fruits et légumes de nos territoires ». Il n'y a pas de photos de plats, mais des dessins. Et puis les photos de ce livre, ce sont celles des agriculteurs qui font pousser les fruits, les légumes, qui font le fromage. Vous bousculez un peu les cuisiniers amateurs, là.
Oui, l'idée... Déjà, pourquoi pas de photos ? J'ai rien contre la photo. La preuve, c'est que c'est un grand talent que celui de savoir faire des photos. Il y en a, mais je voulais vraiment mettre l'accès sur les femmes et les hommes qui font ces produits du territoire, ces fruits, ces légumes, ces fromages, et ainsi de suite. Et pourquoi ? Parce que je me suis rendu compte que les gens, quand vous mettez des photos dans les livres de recettes, soit ils sont déçus de ne pas obtenir le même résultat, ce qui est un peu logique lorsque vous êtes un professionnel et que vous faites les recettes, c'est normal qu'un amateur n'y arrive pas. Soit ils se disent tout simplement « Oh, ça a l'air compliqué, oh non, c'est pas pour moi, oh non, je n'aime pas ci, je n'aime pas ça ». L'intérêt du dessin, c'est que vous vous laissez porter, en fait, et vous entrez dans un imaginaire artistique, c'est plus facile pour les gens. Et l'idée, c'était vraiment, voilà, de ce livre qui est donc à base des fruits et légumes, et c'est pas une ode au véganisme, c'est tout simplement de se dire, dans les enjeux d'aujourd'hui, il faut manger plus de légumes et laisser une part plus importante à nos fruits et légumes. Donc c'est pour accompagner les gens en toute saison.
Parce que vous êtes aussi parrain de l'année internationale des fruits et des légumes.
Ça a été la continuité. J'ai été parrain pour l'année internationale des fruits et légumes. Donc c'est un projet des Nations Unies pour valoriser la production de fruits et légumes. Et ce qui fonctionne pour les uns fonctionnera pour les autres, on le sait. La part aujourd'hui de consommation de nos fruits et légumes n'est pas assez importante. C'est un vrai enjeu de santé publique. Donc c'est bien de se dire que sur les différents repas que l'on peut avoir dans la semaine, ce n'est pas grave si on fait une entrée végétarienne ou un plat végétarien ou un dessert végétarien. Et surtout, ça montre que ça peut être très ludique et très gourmand. C'est le but aussi.
À une époque où, surtout en matière de cuisine végétarienne, on ne lésine pas avec les épices, vous ne cherchez pas vraiment d'inspiration exotique, hein, c'est assez efficace parce que la pointe de basilic dans la tapenade, on a tous adoré à la maison, mais les pastillas de pois chiches et légumes tendres aussi, ça marche très bien et uniquement avec les légumes que vous prenez.
Bah, écoutez, moi, mon rôle est de valoriser le terroir de France. Alors, on peut faire des cuisines dites exotiques ou étrangères avec nos produits français, et la technique de la gastronomie française permet ça. C'est ce qui fait que cette hégémonie de la gastronomie française à travers le monde est aujourd'hui révélée et surtout accomplie par nos chefs étrangers. Ils le reconnaissent, c'est pas quelque chose que l'on veut imposer, c'est quelque chose qui est connu et reconnu par les chefs étrangers. Donc oui, en effet, moi, mon rôle est de valoriser les produits du terroir français, même s'il y a des très beaux produits dans le monde entier, mais ce n'est pas mon rôle de les mettre en avant. Donc en effet, dans ce livre, vous retrouvez exclusivement des produits français, autant que faire se peut. Mais par exemple, j'ai essayé de remplacer, à chaque fois qu'il y avait dans une recette du parmesan, de remplacer ça par un fromage qui s'appelle le Napoléon, qui est un fromage fait par un meilleur ouvrier de France fromager dans les Pyrénées, pour montrer qu'on a à notre disposition, on a un terroir qui est unique au monde, grâce aussi à nos dom-toms, je le rappelle, qui fait que vous pouvez vraiment vous amuser à faire toutes les recettes que vous souhaitez avec des produits français. Ça a un impact aussi sur notre environnement, ça a un impact sur notre santé, ça a un impact sur notre économie.
Est-ce que tout le monde peut trouver les ingrédients dont vous parlez dans votre livre ? Parce que moi, le fromage Napoléon, je ne connaissais pas.
Il y a 25 ans, je vous aurais dit en effet, c'est un petit peu compliqué. Manger, c'était très laborieux, il fallait vraiment s'y mettre. Aujourd'hui, avec les moyens que l'on a techniques, tout le monde a un téléphone, tout le monde a accès à Internet, du moins presque. Les producteurs vont à la rencontre des gens sur les marchés. Je donne l'exemple du Napoléon. Mais en fait, il faut que vous puissiez trouver un fromage sans rentrer dans la technique, mais à pâte un peu dure, français, il n'y a pas 50 km en France où il n'y a pas quelqu'un qui fait du fromage. Donc, vous voyez, c'est quelque chose qui peut très bien se faire, et ce n'est pas très grave si vous remplacez le parmesan par de la tome de chèvre ou par de la tome de vache, ça ne va pas chambouler complètement votre recette. Ce qu'il faut, c'est avoir la démarche de se dire, là où je suis, en fonction de la saison, je ne dois pas manger la même chose et pas suivre la recette bête et disciplinée. Moi, ce que j'aime, c'est quand je rencontre des gens et qu'ils me disent, vous savez, j'ai fait des annotations et que ce livre de recettes, ils se le sont approprié. C'est le but. Il faut s'approprier les recettes, et les recettes, si elles sont vivantes, c'est aussi pour ça. Et vous ne mangez pas la même chose quand vous êtes à Lille ou quand vous êtes à Marseille, parce que vous n'avez pas les mêmes produits, parce que votre territoire, votre terroir ne raconte pas la même histoire.
Vous citez plusieurs producteurs, vous leur rendez un bel hommage. Est-ce qu'ils vous ont déjà dit que depuis la sortie du livre, ils ont été contactés par des lecteurs ?
Certains, oui. Alors, c'est vrai que le livre est sorti très récemment, et le but, c'était vraiment de leur donner la parole. Il y a à chaque fois des pages hommage à ces producteurs, mais en plus, je leur donne la parole. Parce qu'il faut remettre les choses à sa place, sans fausse humilité. Mais qui est-ce qui va mieux parler des asperges que le producteur d'asperges ? Le chef a une vision de ce que peut devenir l'asperge, une certaine technique et une légitimité à parler de la transformation. Par contre, pour parler de la production, moi, je ne sais pas faire pousser une asperge, je ne sais pas faire un fromage. Donc, il fallait donner la parole à celles et ceux qui savent, tout simplement pour convaincre. Et une fois de plus, ne pas oublier que derrière un produit, il y a toujours une femme, un homme, énormément de travail, un entretien du terroir, un entretien du territoire. Donc c'est quelque chose d'important. Et quand vous comprenez ça, quand vous dialoguez par page interposée avec ces gens-là et que vous allez à leur rencontre, il y a leur numéro de téléphone, il y a leur site internet, il y a le lieu où ils sont, c'est quelque chose d'important. Et en effet, certains ont déjà été contactés, que ce soit par des journalistes d'ailleurs, merci à la presse régionale notamment, qui du coup a découvert qu'à quelques kilomètres de leur rédaction, il y avait tel ou tel producteur et qui en a mis en avant. Et puis d'autres ont même été contactés par des médias nationaux, donc c'est quelque chose de fantastique, oui.
Ils sont tous bio, est-ce qu'ils sont chers ?
Non, ils ne sont pas tous bio, ils ne sont pas tous chers. Un produit, ça a un prix. Le low cost dans l'alimentation, ça coûte très cher. Ça tue des gens et ça coûte très cher. À notre société, je ne vais pas vous abreuver de chiffres, mais aujourd'hui, la mauvaise alimentation, ce sont les chiffres de l'Open Agri-Food, en 2020, ça coûte à la société française 40 milliards d'euros par an. Bon, 100 milliards en 2030 si on ne change rien. On a un vrai enjeu de santé publique à mieux manger. Donc il faut comprendre qu'un produit, ça a un coût, bien évidemment, et que ce coût, par contre, il doit être réel. Et quand vous limitez les intermédiaires, quand vous limitez tout ça, c'est quelque chose qui est meilleur pour soi, meilleur pour l'environnement et meilleur pour l'économie globale. Et tous bio, non. Certains le sont, d'autres ne le sont pas parce que la production ne le fait pas forcément. Enfin, je défends en tout cas le bio français, je tiens à le dire, parce qu'on rappellera que dans certains bio étrangers, on ne maîtrise pas forcément les méthodes de production et qu'on autorise des produits phytosanitaires dans des bio étrangers qui sont interdits dans le conventionnel. Donc aujourd'hui, ce n'est pas d'opposer une agriculture à une autre, c'est de montrer que tout se fait et qu'à partir du moment où ce sont des passionnés, et croyez-moi, ce sont des passionnés, tous nos producteurs, tous nos agriculteurs, et ces livres que font les chefs, parce qu'il y a celui-ci, mais il y en a d'autres qui sortent de très bons chefs aussi, c'est vraiment rendre hommage aux acteurs de notre gastronomie, à celles et ceux qui font.
Vous êtes bardé de titres et de diplômes, tous plus impressionnants les uns que les autres. Vous avez servi des millions de repas sous les ordres de la République ou sur une base militaire au Niger, on s'en souvient. Qu'est-ce qui a été le plus grand défi ou l'une de vos plus grandes fiertés ?
Elles sont nombreuses, heureusement, parce que vous savez, c'est ce qui vous fait avancer. Déjà, par rapport au lien à l'alimentation, j'ai deux écoles de cuisine. Je ne l'ai pas dit, mais l'intégralité des droits d'auteur de mes livres partent pour des associations, donc je peux en parler assez facilement, c'est vrai. C'est en même temps une bonne action. Peut-être que dans tous ces défis, vous avez parlé des bases militaires. C'est vrai que lorsque l'on doit faire un déjeuner ou un dîner symbolique en période de fête de Noël à nos militaires qui sont engagés sur des théâtres d'opérations qui sont dangereux, ils sont en guerre, c'est quelque chose qui est différent que de faire à manger, c'est vrai, dans sa cuisine. Donc c'est un rapport à l'autre qui est totalement différent, parce que c'est vraiment de l'émotion pure. Quand vous voyez nos jeunes militaires engagés qui ont presque la larme à l'œil parce qu'il y a un fromage de leur région, parce que les clémentines viennent de Corse, parce que ainsi de suite, un repas, ça raconte une histoire. Et quand vous reliez cette histoire à une histoire personnelle, il y a de l'émotion qui se passe. Et c'est vrai que ça a été, notamment pour les collaborateurs qui m'ont suivi, à chaque fois des moments intenses et forts. Et en 25 ans de carrière, je pense que ça a été les moments les plus intenses en termes de gastronomie.
Vous avez coupé les ponts avec l'Élysée, ou est-ce que vous êtes en contact avec votre successeur Fabrice Desvignes, c'est ça ?
Oui, j'étais avec lui la semaine dernière. Non, je n'ai pas coupé les ponts, parce qu'en plus d'être ambassadeur pour la gastronomie, je cumule, je suis représentant personnel du président de la République. Donc je rends des comptes au président de la République, je travaille pour le président de la République. Donc non, je n'ai pas coupé les ponts avec l'Élysée, loin de là. Je suis très souvent à l'Élysée. Et puis Fabrice Desvignes, qui est un chef de grand talent, meilleur ouvrier de France, Bocuse d'or, à qui j'ai laissé l'entièreté de ma brigade, des collègues. collaborateurs avec lesquels j'ai travaillé certains pendant 25 ans, un quart de siècle, vous l'avez dit, une grosse partie de ma vie. Donc non, bien sûr, je suis toujours en contact avec eux et je suis très fier et très heureux quand tout se passe bien et que la continuité se fasse. Et bien évidemment, c'est différent, c'est une autre histoire. C'est l'histoire de l'Élysée, mais comme j'ai pu la construire moi après mes prédécesseurs, j'étais le 4e chef depuis le général de Gaulle, après Marcel Le Cerveau, Jeune Normand, Bernard Vaution, Fabrice est le 5e.
Dans vos nouvelles fonctions, il y a quelque chose, si ce n'est pas top secret, que vous pouvez nous confier sur ce que vous avez fait avancer ?
Alors là, il faudrait qu'on refasse 25 minutes sur les nouvelles fonctions, parce que je vous l'ai dit, c'est très large. Ça part du sol jusqu'à la méthanisation des déchets avec l'anti-gaspillage, avec l'inclusion, avec l'égalité femmes-hommes, avec tous les sujets qui peuvent se greffer à la gastronomie. Après, les grands dossiers ont été le Covid. On a travaillé avec tous les acteurs du secteur et la restauration a été l'un des secteurs très bien aidés, parce qu'au-delà de vouloir les privilégier, c'est que derrière, il en coulait énormément de secteurs. Justement, toute notre agriculture, toute la production, toute la distribution, il fallait soutenir tout le secteur. Donc l'idée de soutenir la restauration, c'était pour soutenir tout le monde. Après, les grands enjeux sont j'ai en charge également ce qu'on appelle en bon français la Food Vision pour la Coupe du Monde de rugby et les Jeux Olympiques et Paralympiques, qui sont des rendez-vous importants pour la France.
On aura peut-être l'occasion d'en reparler. Guillaume Gomez, merci. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Recettes gourmandes des fruits et légumes de nos territoires, paru au Cherche Midi.
Merci.